Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouilloux dans le rôle de Patrick Trouilloux
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde
de Villefranche à Tataouine.
Galade 100.9.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Calade 100.9, votre émission favorite mensuelle. Et nous allons parler ce soir d'un thème qui m'est très cher et d'un thème qui rappelle ce qui est arrivé il y a 100 ans. En 1918 se terminait un des plus gros carnages, on peut bien dire le mot, de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire la guerre 1914-1918. Alors, donc, je tiens déjà à rendre un hommage, justement, à toutes ces victimes de conflits, directement ou indirectement, hein, d'ailleurs, toutes les victimes civiles ou militaires, parce que depuis cette terrible guerre, j'appelle cela, moi, des guerres de destruction massive. Et malheureusement, on a encore actuellement l'exemple par rapport à ce qui se passe au Yémen, où les populations civiles souffrent énormément. Alors Patrick, bonsoir.
Bonsoir, j'ai cru que tu allais m'oublier.
Non.
Je commençais à être vexé.
Le contexte, alors on va déjà un peu rappeler le contexte intellectuel entre 1900 et 1914. Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Ok, le contexte intellectuel. Ben, je pense qu'il est intéressant de commencer aux environs du début des années 1890. Pourquoi? Ben, à cause d'un événement, un événement fondateur qui est l'affaire Dreyfus. D'accord. Le capitaine Alfred Dreyfus est condamné, accusé d'espionnage. Il est dégradé de ses titres militaires et envoyé au bagne en Guyane. Et il est condamné à perpétuité pour espionnage. Et de là va partir, avec un petit décalage de 2-3 ans, une remise en cause par un groupe qu'on va appeler des intellectuels. Et ce terme va passer à la postérité. C'est la première fois qu'on utilise ce terme des intellectuels. Et ces intellectuels-là vont prendre la défense de Dreyfus. Et je peux vous dire qu'au début, ils parlent dans le désert. Hein. Tout le monde est convaincu de la culpabilité de Dreyfus. Alors, c'est qui les figures historiques de ce groupe? C'est Léon Blum, Émile Zola, Clémenceau, Jean Jaurès, Charles Péguy. Il y en a d'autres, hein, moins connus, mais j'ai gardé seulement ceux dont le nom résonne encore aujourd'hui. Parmi ceux-là, le plus important, c'est sans doute Émile Zola, qui va écrire son article... J'accuse, d'accord, son fameux article J'accuse, qui est aujourd'hui considéré sans doute comme le plus grand article de presse de l'histoire de la presse française, en quelque sorte. D'accord. Ça va lui valoir un procès, ça va lui valoir de l'exil, qui va devoir partir quelques années à l'étranger, mais c'est cet article qui va vraiment déclencher tout. Alors en face vont se retrouver le camp dit des anti-Dreyfusards, ceux qui défendent l'honneur de l'armée, l'honneur de la patrie. Il y aura qui? Il y aura Maurice Barrès, Charles Maurras, Édouard Drummond. On attribue à Barrès l'invention du terme nationalisme, hein, d'accord, nationaliste. Et puis, pour l'affaire Dreyfus, il passe vraiment résolument dans le camp nationaliste, puisqu'il dit « Les Juifs n'ont pas de patrie au sens où nous l'entendons. Pour nous, la patrie, c'est le sol et les ancêtres, c'est la terre de nos morts. » Du côté de ces anti-Dreyfusards, on a qui? On a toute la bourgeoisie catholique, on a l'Académie française, on a en gros tous les gens en place en quelque sorte. Tandis que du côté des Dreyfusards, c'est les libres penseurs de l'université, c'est des petites revues, c'est de l'avant-garde et c'est des gens subalternes. Donc le rapport de force est vraiment déséquilibré. Le fond de l'air anti-Dreyfusard est totalement antisémite. À l'époque, l'antisémitisme était vraiment à un niveau absolument incroyable. Et cette affaire va laisser des traces très très profondes, hein, puisque très progressivement, au fil des années, le camp Dreyfusard va finir par inverser la vapeur et regagner un petit peu, parce que l'affaire de toute façon est incontestable, hein, il s'agissait d'une machination. Alors ce camp Dreyfusard, il va bien sûr se développer en apportant des idées de liberté, de primauté de l'individu sur la nation en quelque sorte, et puis un fort antimilitarisme, hein, d'accord, l'idée de l'autonomie individuelle, l'idée du caractère sacré de la personne contre la raison d'État. Contre la raison d'État qui dit fût-ce au prix d'injustice. D'accord. Et en face, le camp nationaliste parle de l'impératif de la survie de l'espèce, de la survie de la nation, de la défense des institutions comme l'armée et l'Église, fût-ce au prix donc des faux, fût-ce au prix d'accepter des injustices en quelque sorte. Et donc un fort anti-individualisme et un fort antisémitisme. Et tout ça, ça va être assez fondateur, hein, puisqu'on a vraiment ces deux mouvements qui vont combattre durant tout les années 1900-1910, avec une montée en puissance quand même du camp anti-Dreyfusard, même s'ils vont perdre l'affaire Dreyfus, ils vont monter en puissance. Alors on a Maurras qui va apparaître avec l'Action française, qui vont fustiger tout ce qui ne leur ressemble pas, les protestants, les francs-maçons, les juifs, les métèques, etc. On a Léon Daudet. Il y a aussi des événements militaires qui vont s'ajouter à ça. En 1898, il y a un problème à Fachoda face aux Anglais. Il y a ensuite, en 1905, un problème avec l'Allemagne au Maroc.
D'accord. Tout à fait, j'en reparlerai après. Oui.
Tout à fait. Et là, on a vraiment... ça crée une sorte de déclic qui va renforcer un peu le camp nationaliste. Quelqu'un comme Charles Péguy est assez intéressant à étudier parce que Charles Péguy, au départ, est Dreyfusard, mais il va tomber petit à petit vers le catholicisme, vers le nationalisme, et il y a une forme d'embrasement en quelque sorte au fur et à mesure où on s'approche des années 1910, 12, 13, 14. Et quand on arrive dans ces années-là où Jaurès, qui défend la paix, d'accord, est assassiné, c'est dans un contexte où Léon Daudet parlait de lui en disant « Nous ne voudrions déterminer personne à l'assassinat politique, mais que M. Jaurès soit pris de tremblement. » Et puis Charles Péguy lui-même disait « Il ne faut pas se dissimuler que la politique de la Convention nationale, c'est Jaurès dans une charrette et un roulement de tambour pour couvrir cette grande voie. » Bon, bref, c'est des appels à l'assassinat. Il y a vraiment une montée absolument terrible. Et quand il est assassiné, trois jours après la guerre est déclarée, tu vas en parler, c'est vraiment l'explosion, le rassemblement de toute la France derrière le nationalisme. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur le contexte intellectuel de l'époque.
Parlons des causes maintenant. Alors, les causes sont multiples, hein, il n'y en a pas qu'une, évidemment. La première, enfin, pour moi, une des premières causes, c'est le système des alliances politiques et des alliances militaires en Europe. À savoir que vous avez la grande alliance autour de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et l'Italie, d'ailleurs, qui va changer de camp en 1915. Et vous avez en face la France, l'Angleterre, et la Russie impériale. L'Allemagne a un problème. L'Allemagne, si elle fait la guerre, elle doit faire la guerre sur deux fronts. Mmh. Et ça, au départ, hein, il faut savoir que longuement, il y a eu des tensions avant le 28 juin 1914, où tout se déclenche, mais longtemps, le Kaiser a évité de faire la guerre sur deux fronts. Ce sont les militaires qui vont pousser à la guerre.
D'accord. Le militarisme, le front occidental et le front oriental,
exactement, c'est ça ? Le militarisme allemand est extrêmement puissant.
Oui, oui.
Il influence complètement les milieux économiques et les milieux politiques.
Oui.
Donc ça, c'est aussi une autre cause. Mmh. Alors ce militarisme, il existe aussi en France. La seule différence, c'est que l'Allemagne, et ça on va le voir très vite, est largement en avance au niveau organisation militaire.
Une puissance économique et industrielle terrible, on va en parler. Ouais.
Alors voilà, donc pourquoi l'Angleterre, qui a toujours été l'ennemi héréditaire de la France, pourquoi s'allie-t-elle avec la France ? C'est simple. À l'époque, donc c'est justement dans la période que je parlais de tout à l'heure, début XXe siècle, Édouard VII qui a remplacé la reine Victoria. D'ailleurs, il faut savoir que la reine Victoria, elle est parente quasiment avec tous les chefs d'État des monarchies et des empires de l'époque. Hein. On l'appelle d'ailleurs, il faut le savoir, on l'appelle la grand-mère de l'Europe.
Oui, oui, bah, c'est la consanguinité des monarques européens.
Hein, donc ils se connaissaient quasiment tous, ils venaient même grand-mère, si je puis dire.
Une grande famille.
Et donc l'Angleterre, pourquoi s'allie-t-elle avec la France ? Eh bien, c'est très simple. Elle a besoin d'une armée de godillots. L'Angleterre est une île, comme tout le monde le sait. Donc si elle veut faire la guerre à l'Allemagne, qui devient son ennemi parce qu'elle devient extrêmement menaçante, et notamment sa Kriegsmarine. Mmh. Vous savez que l'Angleterre a toujours été une très très grande marine.
Ah oui, bien sûr.
Mais la Kriegsmarine va mettre au point les premiers U-boats, les premiers sous-marins.
La Kriegsmarine, c'est la marine allemande,
C'est la marine allemande, la marine du Kaiser, et devient une menace pour l'Angleterre.
D'accord.
Donc l'Angleterre s'allie avec la France pour cela, parce qu'elle sait très bien que la grande menace dans l'Europe, c'est l'Allemagne.
Oui.
Ouais. Surtout pour elle qui, à l'époque, est la première puissance du monde.
Elle pressent la montée en puissance allemande, de toute façon, elle la voit en plus, hein, sur le plan économique déjà.
D'autant plus que l'Allemagne sera alliée de l'Empire ottoman, c'est-à-dire la Turquie, si vous préférez, de l'époque. Et la Turquie, à l'époque, enfin l'Empire ottoman, possédait les puits de pétrole. Et donc une énorme alliance, vous imaginez, même géographique, mais une alliance entre Berlin et Bagdad représenterait une menace pour l'Angleterre, parce que ça ferait une puissance militaire et une puissance économique extraordinaire. Fallait absolument se méfier de cela. Donc l'Angleterre l'a très vite compris. Voilà pourquoi elle s'allie avec la France.
D'accord.
Voilà. Donc ça, c'est, vous voyez, c'est des causes profondes. Alors il y en a d'autres. Vous avez, pour les marxistes, je dis bien pour les marxistes, hein, vous avez la montée en puissance aussi des partis socialistes.
Oui, tout à fait.
Et notamment Jaurès, c'est un très bon exemple en France.
Ouais,
Il y a une montée en puissance des partis socialistes et le monde ouvrier s'organise de mieux en mieux.
Oui, dans tous les pays.
Dans tous les pays, même si les conditions de vie restent extrêmement pénibles,
hein, bien sûr.
Pas sans cacher. Mais il y a telle montée du Parti Socialiste que, quelque part, les grands patrons verraient bien à ce qu'il y ait un conflit. Ça pourrait les arranger.
Donc d'accord, c'est la vision marxiste.
C'est la vision marxiste.
D'accord. Une bonne guerre, ça occupera tous ces années
ouvriers. C'est ce que disait Jaurès.
D'accord.
C'est pour ça qu'il voulait absolument une alliance entre tous les partis socialistes d'Europe. Donc vous voyez, donc ça c'est la vision marxiste.
D'accord.
Sinon, il y a aussi tout simplement... la rivalité territoriale. La France a été humiliée en 1870 et 71. Elle a perdu l'Alsace et une partie de la Lorraine, qui est le département de la Moselle. La partie de Nancy est restée française, il faut le savoir. Et dès 1871, on veut une armée de revanche. Ça, c'est clairement dit. L'affaire Dreyfus rajoute quelque chose. Rajoute évidemment la montée en puissance de l'antisémitisme en Europe et en France.
Déjà présente,
Mais l'armée de la revanche, on la veut. Oui. On veut récupérer l'Alsace et la Moselle sur ce que les Prussiens, devenus les Allemands, ont volé.
D'accord.
Sauf que, et on verra au début du conflit, la France va s'entêter à attaquer sur cette partie du territoire et elle ne percera jamais par là. Et l'Allemagne qui va envahir la Belgique va menacer tout de suite la France au nord. Et on verra que en envahissant la Belgique, l'Angleterre prend peur et c'est à partir de ce moment-là qu'elle rentre dans le conflit. Donc l'élément réel, l'élément déclencheur, c'est quoi? C'est l'attentat de Sarajevo.
Oui, bien sûr.
L'attentat de Sarajevo, nous sommes le 28 juin 1914, retenez cette date.
Oui.
Parce que, exprès, qu'est-ce qu'on va faire lors du traité de Versailles? On va humilier les perdants, et notamment l'Allemagne, un 28 juin 1919.
Oui, tout à fait.
Et tout ça, c'est voulu, les dates. Vous voyez, à mon avis, c'est pas du hasard.
Le symbolisme de la revanche, en quelque sorte.
Et on va dire donc que c'est l'Allemagne, effectivement, qui déclare la guerre à la France suite, quelques semaines après, donc début août, là, on est début août 14, qui va déclarer la guerre donc à la France. Et c'est parti. Et on pense, tous pensent, qu'à Noël, tranquille, c'est plié. Que ce soit du côté français... du côté allemand, voire
tout
du côté russe.
Tout le monde est persuadé d'une guerre courte, on va en reparler aussi dans les communes de guerre.
Exactement, tout le monde est persuadé que ça va être pépère, que on verra après l'attaque à outrance va forcément fonctionner. On va voir en fait, ça j'en reparlerai après, des tactiques de guerre du côté français, qui s'est pensé à des tactiques napoléoniennes.
D'accord.
En 1914, on avait 100 ans de retard,
d'où
des massacres terribles.
D'accord,
Donc... ce qui se passe, donc, 28 juin 1914, avec le système des alliances, tout le monde se déclare la guerre petit à petit. Sauf que l'Italie ne va pas rentrer tout de suite dans le conflit, parce qu'elle réclame des terres irrédentes. C'est des terres qui sont, en fait, dans le royaume d'Autriche-Hongrie.
On est d'accord, l'Italie est du côté français et anglais à l'époque.
Non, au départ, en 1914, elle est avec l'Alliance. Elle est avec l'Alliance, mais comme l'Autriche-Hongrie ne veut pas céder ses terres à l'Italie du Nord, notamment le Trentin au Tadige, l'Italie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se range côté français, les Français promettent, vous faites la guerre sur un nouveau front, en gros, au nord de Venise. Vous avez ce qu'on appelle donc vous avez la connexion entre le royaume d'Italie de l'époque et l'Empire austro-hongrois.
Ouais, tout à fait.
Et donc les Français promettent après vous gagnez de notre côté et on vous donne ces terres irrédentes.
D'accord. Donc ils ont retourné les Italiens avec ce petit cadeau potentiel.
Exactement, parce que c'était un jeu à chaque fois de toute façon. Oui, les enjeux territoriaux sont là. Alors on va pouvoir lancer justement une musique qui a marqué son époque de 1871 à 1914, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine.
France à car la sainte espérance emplit nos cœurs en te disant adieu. En attendant l'heure de délivrance pour l'avenir, nous allons prier Dieu. Nos monuments où flottent leurs bannières semblent porter le deuil de ton drapeau. Entends-tu la dernière prière de tes enfants couchés dans leur tombeau? Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez.
Vous écoutez Poker Menteur sur Radio Calade. Nous faisons une émission spéciale à l'occasion des 100 ans de la fin du conflit de la Grande Guerre. Donc une émission sur la première guerre mondiale.
100.9 Calade.
Alors on a entendu les paroles assez édifiantes de cette chanson. On est vraiment dans la période « On part à la guerre, la fleur au fusil ».
Tout à fait.
Donc on va continuer un petit peu maintenant en parlant un petit peu de l'état de l'économie et ce qu'on appelle l'économie de guerre durant cette période. Et je vais rebondir sur un point que tu as toi-même cité, c'est le fait qu'en fait au départ, tous les pays sont convaincus que cette guerre va être courte. Donc, ce qu'ils ne vont pas voir, c'est le fait que le système économique va être frappé de plein fouet. Parce que les hommes sont massivement mobilisés, donc ils ne sont plus là pour produire, la production s'effondre. Les circuits commerciaux, les circuits de distribution sont massivement utilisés pour les besoins de la guerre, ils vont s'effondrer également. Les bourses, les marchés financiers de l'époque vont être également fermés. Parce qu'à l'époque, les monnaies pouvaient être converties en or à demande de n'importe qui. Alors cette possibilité va être suspendue. Les monnaies ne sont plus converties en or pour éviter une ruée vers l'or. Parce que dans ces cas-là, il y a pas mal de monde qui s'inquiète et qui se dit « vaut mieux avoir de l'or que des monnaies dont la valeur va flancher » et pour financer l'effort de guerre. Et c'est seulement à partir de 1915 qu'on va s'apercevoir que la guerre va durer et qu'on va mettre en place cette économie de guerre. Déjà en France, on a un gros problème, c'est qu'on a perdu 9 départements et qui sont, pas de chance, les plus impliqués dans la production d'acier et de charbon.
Tout à fait.
Donc là, on se retrouve avec un gros problème. Bon, l'économie de guerre, en gros, que ce soit pour la France ou l'Allemagne, c'est une économie marquée par une intervention massive de l'État. L'État va déterminer les priorités et qui vont être appliquées par les ministères spécialisés, etc. Une des priorités, ça va être faire face à la pénurie de main-d'œuvre. En 1915, ce qu'on ne sait pas trop, c'est que 500 000 ouvriers qualifiés vont être ramenés du front pour être renvoyés dans les usines parce qu'on a besoin d'eux pour produire. On va utiliser les prisonniers de guerre, on va utiliser de l'immigration, on va utiliser de la main-d'œuvre féminine, nouveauté. On va passer la journée de travail de 12 à 14 heures. On va généraliser le travail de nuit. Bref, tout est tourné vers cette nécessité de retrouver de la main-d'œuvre pour produire cette économie tournée vers la guerre.
C'est vraiment un effort totalement collectif, quoi. Ouais. Tout le monde est impliqué dans la guerre. Hein. C'est la première fois dans l'histoire qu'on voit vraiment une telle implication des populations civiles. Ouais, on n'avait jamais connu ça auparavant.
Hein. Alors une information pour ceux que ça pourrait être intéressé, l'impôt sur le revenu date de la Première Guerre mondiale. C'est là qu'il va être inventé. Au début, il ne va pas rapporter grand-chose, mais bon, il est inventé là, puis il va monter progressivement. L'État va aussi massivement emprunter, l'État va massivement faire marcher la planche à billets, d'où l'inflation, l'apparition de l'inflation. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Et bien sûr, l'économie s'oriente vers l'industrie lourde au détriment de la consommation qui devient rationnée. En Allemagne, c'est un petit peu la même chose, hein, d'accord, sauf qu'on a une nation extrêmement puissante qui a déjà fait des progrès extraordinaires au niveau de l'industrie lourde. La sidérurgie, la métallurgie, la construction mécanique, c'est une nation qui compte des géants économiques comme Krupp, comme Siemens. Donc métallurgie, armement, mine, acier, électricité, télégraphe, qui ont des dizaines de milliers de salariés. Ils ont des associations d'entreprises qui s'appellent des Konzerne, qui sont des associations d'entreprises rassemblées selon des logiques horizontales ou verticales. Et à la veille de la guerre, l'Allemagne, c'est 16% de la production mondiale industrielle, compte 14% à la Grande-Bretagne et 6% à la France. L'Allemagne, c'est le leader mondial de l'industrie électrique. Et donc, en Allemagne, va se mettre en place ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel, qui symbolise cette industrie lourde et qui va être située géographiquement beaucoup dans la Ruhr, hein, d'accord, cette région allemande qui est la Ruhr, le centre de la métallurgie, et qui sera tournée vers la production d'armement. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire sur l'économie de guerre. Mais maintenant, on va passer, je dirais, au vif du sujet, hein, si on peut
oui,
dire. On va passer aux aspects militaires.
L'aspect plus militaire de cette guerre atroce, hein, eh ben, elle commence déjà par, il faut savoir qu'en 1914, c'est l'année qui a fait le plus de victimes dans les rangs français. Pourquoi ? Eh ben, c'est simple, je l'ai précisé tout à l'heure, on pense que les généraux français, dont Joffre, notamment, qui est le plus connu, hein, le généralissime, pensent que il suffit d'aller la faire au fusil, les offensives à outrance, avec un pantalon rouge et un uniforme bleu qui est visible à 3 km, et qu'on va tranquillement vaincre l'ennemi. Ça va coûter des centaines de milliers de morts dans l'armée française, ça. C'est un carnage, le premier mois de guerre. Un véritable carnage. Et on se rend compte très vite que les Allemands sont en avance sur les Français. Déjà, leur uniforme est beaucoup moins visible. Leur artillerie lourde est déjà bien plus efficace. Ils ont un accès au front grâce à un maillage ferroviaire bien plus développé que le nôtre.
Oui, bah là on voit la supériorité de l'industrie allemande.
Et c'est ça qui a failli donc nous coûter Verdun. Et on verra que c'est un certain maréchal Pétain qui va prendre une décision complètement très mal vue à l'époque, c'est qu'il va attendre les Allemands, il va arrêter les offensives inutiles et il va surtout faire tourner l'armée française. C'est-à-dire qu'à Verdun, on n'y reste qu'une semaine.
D'accord.
Donc toute l'armée française passe à Verdun parce qu'elle a besoin de pas rester longtemps sur le front. C'est ce qui va user les Allemands.
D'accord.
D'autant plus qu'en 1916, donc c'est la bataille de Verdun, le 21 février 1916, je vais vous donner quelques chiffres. Donc ça, c'est un aspect important aussi, c'est les bombardements d'artillerie totalement inutiles. Je rappelle que en gros, ça se passait comment ? Il y avait à l'arrière, il y avait donc une ceinture de canons, 4-5 km, 10 km derrière, qui bombardaient les tranchées adverses. D'accord. Quelquefois, elles tiraient trop court, erreur.
Pas de chance.
Oui, mais c'est, malheureusement, oui, ça arrivait. Et qu'est-ce qui se passait ? Les ennemis, ils se mettaient dans leurs abris. Et il faut savoir que les Allemands avaient des abris bétonnés qui pouvaient contenir 3-4 000 soldats.
C'est la qualité allemande.
Oui.
Déjà à l'époque.
Et nous, les Français, nous, on ne s'en doutait pas. Alors que nous, on avait généralement des tranchées bien moins bien aménagées parce que, tout simplement, on combattait en France. Et donc, ça devait être du provisoire pour nous. Eux, les Allemands, ils étaient à l'étranger.
Il y a quand même quelque chose qui est étonnant, c'est cet état d'impréparation, au moins dans la connaissance du niveau de performance qu'on pouvait attendre de l'ennemi. C'est quand même ahurissant que l'armée française ait une si faible connaissance de ce qui les attend. C'est quand même ahurissant.
Je pense qu'ils se surestiment et ils sous-estiment l'autre. Tout simplement.
C'est quand même ça. Sans l'amateurisme à plein nez, quand même.
Complètement. Et ça a fait donc des centaines de milliers de morts. Alors, je donne un exemple pour ces histoires de bombardements inutiles. Donc, quand les bombardements arrêtaient, quelquefois, ça durait 10 heures, une journée, une semaine. Donc, il fallait tenir au niveau moral. Donc, vous étiez dans vos abris.
Une semaine de bombardement ininterrompu.
Oui, ça pouvait arriver. La bataille de la Somme, ça a été terrible. Mais donc, ça s'arrêtait peut-être que de 2-3 heures. Ça reprenait 10 heures, 12 heures, 15 heures.
D'accord.
À Verdun, le 21 février 1916, au Bois des Corps, c'est un bois, donc c'est carré, c'est pas très grand, il tombe en 10 heures 1 million d'obus. Vous imaginez l'intensité des combats. C'est-à-dire qu'il y avait une forêt, elle disparaît le lendemain, elle n'est plus là. Le million d'obus a totalement fait disparaître la forêt, évidemment. Par exemple, il va falloir attendre, je crois, des années 30 pour avoir des arbres. Avoir des arbres, des oiseaux chanter sur le champ de bataille. Donc on imagine un sol lunaire et pas un bruit. Donc ce bombardement massif d'artillerie qui est la plupart du temps inutile, ça va durer cette affaire de 1914 à mars-juillet 1918. Et là on a compris qu'il fallait utiliser autre chose. D'ailleurs le premier qui a eu l'idée et qui a compris qu'il fallait, troisième idée, protéger l'infanterie. Parce que quand on sortait de la tranchée et qu'en face il y avait un nid de mitrailleuse, vous est fauché, c'est tout à fait logique, parce que vous n'y aviez aucune protection. On avait compris qu'il fallait utiliser donc quelque chose d'autre que l'infanterie pour prendre la tranchée adverse. Eh ben, c'est les premiers qui ont utilisé ça, c'est les Anglais, mais il faut attendre 1916.
D'accord.
Sachant que les premiers chars d'assaut sont extrêmement lents, extrêmement lourds et tombent très souvent en panne.
Le quelque chose d'autre, c'est les chars d'assaut, c'est ça?
Ah,
Ah d'accord, ok.
Et les percées des tranchées en 1918 ont eu lieu surtout grâce au char d'assaut et l'arrivée des Américains.
D'accord.
Mais surtout grâce au char. Parce que là, dans un char, vous êtes protégé.
Oui, bah bien sûr.
Alors il faut qu'il y ait un obus qui tombe pile poil sur le char qui avance, oui. Mais ce qui est extrêmement délicat.
Oui.
Donc ce qui fait que cette utilisation massive de l'infanterie sans protection a été un véritable aussi carnage.
D'accord.
En 1916, le 1er juillet 1916, à la Somme, c'est la grande offensive anglaise, ouais. et française, surtout anglaise.
Hein. Ouais.
On est persuadé qu'en lançant la cavalerie, écoutez bien, hein, en lançant la cavalerie, on va percer le front. C'est un pur massacre.
Ben oui, en fait, il résonne encore avec le temps où l'industrie n'existait pas, en fait.
Déjà, le temps, et surtout des méthodes qui remontent au début du 19e siècle.
Ah oui, des méthodes qui ont un siècle de retard, alors.
Donc souvent, d'ailleurs, on dit que le 20e siècle est mort ce jour-là, le 1er juillet 1916, à la Somme. C'est que là, enfin, ils ont compris qu'il fallait une autre méthode. Mmh. Et qu'il fallait effectivement prendre en ligne de compte le potentiel militaire allemand qui est absolument monstrueux. Hein, parce que je signale quand même qu'ils ont dû ils ont quand même résisté sur deux fronts.
Il ouais, ouais,
faut
ouais.
quand même le rappeler, ça. Hein. Mm. Donc, on n'imagine pas. Alors, dans cette brutalité des combats, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qu'en gros, on estime qu'il y a eu 1 milliard d'obus qui sont tombés sur la France.
Mm.
Alors, on imagine déjà, il faut les construire.
Bah ouais.
La quantité d'acier que ça représente.
Ouais.
D'accord ? Mmh. On n'imagine pas. Mais qui a souffert ? Évidemment, les hommes, mais aussi les animaux et la terre.
Ah oui, je pense qu'il ne doit pas rester grand-chose là-bas.
Exactement. Sans parler que, qu'est-ce qui est nouveau aussi ? Ben, y a plein d'armes nouvelles. Vous avez l'utilisation notamment du gaz asphyxiant. Alors, au départ, nous, on est complètement démunis. Utilisé pour la première fois à Ypres, début 1915, par les Allemands qui étaient en... Vous savez qu'il y a une très grande puissance industrielle chimique.
Oui, donc qui était en avance là-dessus, nécessairement.
Et ils avaient déjà le masque à gaz que l'on connaît quasiment maintenant.
D'accord.
Et nous, qu'est-ce qu'on avait, nous ? On demandait aux soldats français de prendre un gros morceau de coton, d'uriner dessus et de se le mettre dessus. Mais oui, on était complètement à la rue.
Ah oui, oui.
Donc il a fallu s'adapter. Et comment on a compris qu'ils avaient des masques à gaz ? Bah, tout simplement en récupérant les masques à gaz sur les cadavres allemands.
D'accord. Ok, très bien. En fait, c'est vraiment l'impression... La révolution industrielle arrive dans la guerre, en fait.
C'est ça.
Cette guerre, c'est ça. Hein, c'est l'arrivée de la révolution industrielle, mais dans un contexte de guerre, avec au début des généraux qui sont quand même des crétins finis, quand même, parce qu'eux, ils n'ont pas compris qu'on est dans la révolution industrielle, qu'on est dans un autre monde.
Un seul a compris. C'est le général Pétain.
Oui, tout à fait. Mais, enfin, oui, général à l'époque.
Général, oui.
Mais les autres n'ont pas compris. Ils raisonnent encore comme s'ils étaient aux premières moitiés du 19e
oui,
siècle.
Oui, comme si c'était Napoléon qui utilisait son infanterie, sa cavalerie, ses canons. Ils ne comprennent rien aux enjeux. Et d'ailleurs, la couleur rouge de l'uniforme français, rouge et bleu, était utilisée à l'origine, pourquoi ? Par les troupes napoléoniennes. Est-ce que
oui,
tu sais
oui.
pourquoi ? Parce
non.
qu'il y avait tellement de fumée à l'époque, sur
d'accord.
le champ de bataille, qu'il fallait des couleurs vives.
Pour pas se tirer dessus.
Bah oui, pour pas confondre un ami et un ennemi.
D'accord.
C'était uniquement dans ce but-là. Donc on raisonne encore comme ça en 1914.
Comme au temps des gardes napoléoniennes.
Vous imaginez ?
D'accord. Ouais.
Et donc, on arrive enfin avec le casque Adrian en 1915, et on va voir petit à petit un uniforme qui va être bleu pétrole. On appelait ça bleu horizon.
Oui, d'accord.
Parce que, soi-disant, qu'il pouvait se confondre avec le bleu, je ne sais pas s'il y avait vraiment du bleu dans le nord de la France, d'ailleurs, en plein hiver.
Pas souvent.
À mon avis, ça m'étonnerait. J'ai habité 40 ans dans le nord, je peux vous dire qu'au mois de février, il n'y a pas beaucoup de ciel bleu,
ouais.
Je peux vous le dire. Donc voilà, on aura dit, de toute façon, quand on a proposé ça à Joffre, il a dit, de toute façon, moi, je buterai les boches avant Noël. Avant Noël, je vais buter les boches.
Alors, okay, très bien.
Nous allons annoncer justement une musique directement en rapport avec ces massacres, la musique Le Bois le Prêtre.
Je vais chanter le bois fameux, où chaque soir dans l'air brumeux, rôde le boche venimeux à l'œil de traître. Où nos poilus au cœur haletier, contre ce bandit de métier, se sont battus sans lâcher pied. Le bois le prêtre, On est terré comme un renard, on est tiré comme un canard. Si l'on sort, gare au traquenard où l'on s'empêtre. Dès que l'on quitte son bourbier, on reçoit un lingot d'acier, car l'on est chasseur et gibier au bois le prêtre. Tous les arbres y sont hachés et des bavarois desséchés là-haut sont encore accrochés sur un vieux hêtre. Ils y sont pour longtemps, dit-on, car même le vautour glouton vous a le dégoût du teuton au bois le prêtre. Après la guerre, nous irons et nous nous agenouillerons. Sur chaque croix, nous écrirons en grosses lettres. Si j'y ai un gars plein d'avenir, qui sans un mot, sans un soupir, pour la France est tombé martyr, au bois le prêtre.
Poker menteur.
Poker menteur. Calade. Poker menteur toujours avec notre émission spéciale pour les 100 ans de la fin du conflit de la Première Guerre mondiale. Donc cette musique, on entendait bien, déjà bien, Franck, on est moins sur le style triomphant de la première, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, on est plus déjà dans une prise de conscience de pas mal de douleurs.
Ah là, on a complètement changé d'attitude. Là, on est dans le désenchantement. On s'aperçoit que la grande victoire promise avant Noël 1914, c'était complètement faux. Puis on a perdu des amis, on a perdu des dizaines de copains. On souffre. Le bois de prêtre était un secteur sur l'Argonne particulièrement intense au niveau des combats, et même le président Raymond Poincaré s'y est rendu et il a dit j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc ils ne sont pas résignés, ils sont désenchantés pour l'instant. D'accord. Mais ça va encore se dégrader.
Alors si tu nous parlais de tout cet aspect humain, cet aspect de souffrance massive que va rencontrer le pays.
Alors parlons déjà des soldats tout simplement. Donc ouais. Je disais effectivement au départ, il faut savoir que après un assaut généralement meurtrier, on rentrait dans la tranchée de première ligne et on faisait l'appel. Très vite, on n'a plus fait l'appel.
Ouais, parce que là, pour te casser le moral, je pense que ça devait être bien.
C'était absolument insupportable.
Bah, bien sûr.
Donc, vous voyez, donc ça évolue. Autre chose, quand on pense à tous ces gars qui devaient attendre 10 heures avec des centaines de milliers d'obus qui vous tombent au-dessus, certains, tout simplement, ont eu des traumatismes psychologiques.
Oui, ils deviennent fous, quoi.
Complètement.
C'est logique aussi. Hein.
Et on a même eu le cas de personnes qui avaient des hallucinations, qui voyaient des soldats alors qu'il n'y en avait pas. Et on pensait que c'était des simulateurs la plupart du temps. Il y en a eu des simulateurs, attention, c'est une minorité. C'est une minorité. Et donc, quand les médecins ont dû traiter ça, ils n'avaient jamais vu ça. Ils ont dû improviser. On a eu des techniques plus ou moins efficaces. Quand, par exemple, j'ai ça en tête. Quand, par exemple, vous aviez un soldat qui était complètement paralysé et tendu à cause de ces fameux bombardements interminables, on a créé l'électrothérapie.
Tiens donc.
C'est-à-dire les électrochocs.
Ah bon ?
Oui. L'électrothérapie a été inventée pendant cette guerre.
Pendant la Première Guerre mondiale.
Ah ouais. Et donc, à savoir, en plus, ça existait jusqu'aux années 70, ces pratiques, par rapport à des gens qui ont des problèmes psychologiques.
D'accord.
Les électrochocs, vous imaginez.
Je ne me souvenais plus de quand ça datait.
Je crois que ça a daté de 1915 ou 1916.
Incroyable. D'accord.
Donc, vous voyez, donc, tout ça, c'est les conséquences que l'on a sur la population militaire, sur la population civile. Tu l'as très bien dit. Tout le monde, en fait, est touché par le conflit. Donc, c'est un mari, c'est un oncle, c'est un frère. Ouais. Toute la population de l'ensemble de la France est immobilisée. Je vous ai dit tout à l'heure à Verdun, Pétain, il fait tourner toute l'armée française. La muraille humaine, Verdun a été une véritable muraille humaine pour empêcher de voir les troupes donc du Kaiser déferler sur Reims, enfin sur Verdun, Reims et Paris.
D'accord.
Une muraille humaine.
Ouais, ouais.
Ça a fait 700 000 victimes en 10 mois. Est-ce qu'on peut imaginer ce que ça représente ?
Non, on a du mal. Hein.
Alors, on en parle, mais c'est vrai que donc, ceux qui prenaient le plus, c'était effectivement les soldats. D'ailleurs, ils sont tous devenus alcooliques. Il faut savoir aussi une chose, c'est que l'eau manquait à Verdun. Il y avait très, très difficilement d'eau potable. Par contre, Pétain, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il donne des tonneaux de vin sur le front, même quelquefois jusqu'en première ligne.
D'accord.
Donc, ils sont tous quasiment devenus alcooliques.
Il comprend en même temps. Hein,
oui, parce que si vous buviez, par exemple, de l'eau dans la tranchée avec dans laquelle il y a eu des cadavres et des rats, vous risquez la dysenterie et la mort.
Vaut mieux être alcoolique que mort, en fait.
Mais on n'imagine pas. C'est-à-dire, on mourrait de soif. Il y en a certains qui, par exemple, lors de la prise du fort de Douaumont, certains ont bu leur propre urine. Je ne sais pas si on imagine. Donc, voilà. Donc, vous voyez tout cet aspect de traumatisme sur la population militaire et civile. Ouais. Et les femmes ont dû massivement entrer dans les usines d'armement pour faire des obus, des munitions, etc.
Oui, comme on l'a dit, oui, tout à fait.
Je précise, par exemple, dans la région, que il y avait à la halte au Ligarnier une énorme usine d'armement.
Ouais, d'accord.
C'est là où on fabriquait les obus qui partaient sur le front, entre autres. Mais il y avait aussi à Paris, notamment. Vous savez que André Citroën a fait aussi des obus. Hein.
Oui, ben, de toute façon, vu la quantité qui était balancée, il fallait quand même en produire pas mal. On va s'écouter une autre musique maintenant.
Oui, alors nous allons écouter La Butte Rouge. Alors La Butte Rouge, j'en dirai un petit mot après.
D'accord.
Écoutons La Butte Rouge.
Sur cette butte-là, y avait pas de gigolette, pas de marlou ni de beau muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la galette et de Paname qu'est le roi des patelins. Ce qu'elle en a bu du beau sang cette terre, sang d'ouvriers, sang de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on ne tue que les innocents. La Butte Rouge, c'est son nom, le baptême suit un matin, où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, qui boira de ce vin-là, boira le sang des copains.
Donc c'était La Butte Rouge. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette chanson ?
Alors La Butte Rouge a été écrite par un certain... chantée par un certain Gaston Monteus. Mm-hmm. Et cette musique, elle est sortie en disque à l'époque. Je crois que c'est 78 tours, il me semble.
Ah bon ? D'accord.
Et elle est restée longtemps un peu la chanson du peuple de gauche.
D'accord.
Avant Le Déserteur de Boris Vian.
Oui, bien plus tard.
Bien plus tard, donc ça dans les années 60, d'accord ? Mais dans l'entre-deux-guerres, La Butte Rouge est vraiment un hymne. Ici, d'accord. C'est clairement un message de paix.
Oui.
Sauf que Gaston Monteus, pendant la guerre, qui n'a jamais mis les pieds sur le front, dans une tranchée, a été décoré militairement et il était clairement dans l'Union sacrée contre l'Allemagne.
Oui, bien sûr.
Donc voilà, donc c'est une chanson qui ne dérange pas. Sauf que il y en a une autre qui dérange.
Qu'on va écouter maintenant ?
Oui, c'est la chanson de Craon.
D'accord, allons-y.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchée, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance. Que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres purotins. Tous les camarades sont étendus là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau.
Calade.
Vous écoutez Poker Menteur, émission spéciale Première Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette chanson de Craon, qui fait suite à la Butte Rouge qu'on a écoutée précédemment?
Alors, la chanson de Craon, déjà, il faut situer à peu près la période et le lieu. Donc, Craon est situé au nord du département de l'Aisne, sur une route qui s'appelle le Chemin des Dames.
Ouais, le fameux.
Oui, le général Nivelle pense, comme d'habitude, gros bombardement d'artillerie, ça n'a pas changé, on est en 17. Hein. Gros bombardement d'artillerie, on lance l'infanterie et on va prendre les grenades, la première ligne adverse.
Ouais.
Le seul problème, c'est quand les Français ont perdu le chemin des Dames, les hauteurs, bah les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis? À ton avis, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Je sais pas, moi je suis pas très militaire.
Et bah, ils ont creusé des abris beaucoup plus.
Ah bah oui, ils sont allemands.
Vous voyez ce que je veux dire? De grande qualité. Voilà. Donc le bombardement d'artillerie sera encore une fois inutile. Mmh. Et là, ça va être un véritable carnage.
D'accord.
Et là, c'est là où on commence vraiment à être défaitiste.
Et c'est là où on se rend compte de ça. En fait.
On va commencer à entendre des voix socialistes qui disent on en arrête, ça suffit. D'autant plus que vous avez en même temps la révolution russe.
Et c'est ça qu'on entend dans la chanson, la contestation cette fois-ci qui
monte.
Parle ouvertement.
Là, ils ne veulent plus se battre. Là, c'est les mutineries qui commencent.
D'accord. D'où le fait qu'elle était interdite, cette chanson, tu
Donc
disais
Cette chanson était totalement interdite, évidemment, pendant la guerre. En la chantant, on risquait d'avoir des gros problèmes avec les officiers supérieurs.
Ouais.
Elle a été interdite à la radio jusque dans les années 70.
Ah oui, carrément.
Donc c'est pour vous dire que le thème était quand même assez délicat.
On a le sens des tabous en France, hein, d'accord.
Tout à fait. Donc voilà, c'est une chanson vraiment ici qui était le symbole du ras-le-bol absolu du poilu, qui certes voulait se battre, mais pas avec des méthodes comme ça, parce qu'on a vu depuis 1914 que ça ne fonctionnait pas.
Alors si tu veux, on va continuer un petit peu dans cette idée de l'expression artistique de cette époque, de ce mal-être. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'expression artistique à travers la littérature et pourquoi pas le cinéma de la Première Guerre mondiale?
Alors, déjà, on peut parler de Gabriel Chevallier, hein, qui est un homme d'ici, un homme du Beaujolais.
D'accord.
Qui a écrit, vous connaissez sans doute Clochemerle, mais il a écrit aussi, parce qu'il a connu le conflit, il a écrit La peur.
Okay.
Qui est sorti dans les années 30, je crois. Mmh. Il faut savoir que la littérature n'était pas toujours très bien vue.
Ouais.
Autre exemple, alors je peux citer du côté allemand, Erich Maria Remarque, qui a écrit À l'Ouest, forcément pour eux c'est ça, hein, À l'Ouest, rien de nouveau.
Bien sûr.
Et qui a été mise au cinéma, mise à l'écran dans les années, début des années 30. qui était une des plus grandes productions allemandes de l'époque. Seul problème, c'est que les nazis l'ont interdit.
Ah oui.
Oui, parce que ça exprimait que, en gros, éviter de faire la guerre, alors c'est que les nazis, tout ce qu'ils veulent, eux, c'est exactement le contraire.
Bien sûr, je comprends.
On peut parler aussi de tous ces artistes comme Autodix qui ont ensuite mis ça sur la toile.
Oui.
Toutes ces horreurs absolues.
Oui.
Alors évidemment, on va pas tous les citer, hein, ça ferait un peu trop, mais on peut citer plus récemment, tu peux nous en parler, de Au revoir là-haut. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de Au revoir là-haut?
Oui, alors avant Au revoir là-haut, quand même, j'aimerais bien citer Stanley Kubrick.
Ah oui, on peut citer Stanley.
Qui est un cinéaste favori.
Tout à fait.
Et qui a tourné le fameux film Les Sentiers de la Gloire dans les années 50, avec Kirk Douglas de mémoire.
C'est
et
ça.
Qui, là aussi, a été interdit en France durant une trentaine d'années. Parce que ça raconte le front français en quelque sorte. Donc au niveau cinéma, oui, on a beaucoup plus récemment un roman de Pierre Lemaitre qui a eu le prix Goncourt, qui s'appelle Au revoir là-haut, et qui a été mis au cinéma en quelque sorte, adapté au cinéma par, comment s'appelle-t-il déjà, le réalisateur.
Ça va me revenir.
En tout cas, c'est une adaptation qui est absolument sensationnelle. Par sa qualité. Et au début, on est vraiment sur le front. On voit vraiment le front, une reconstitution absolument incroyable de précision, de véracité. Voilà, au cinéma. Mais si je remonte un peu plus dans le temps, quand même, au niveau littérature.
J'aimerais rebondir, excuse-moi de t'interrompre. Sur Au revoir là-haut, il y a deux thèmes qui sont abordés, qui sont importants.
Ouais.
C'est le thème du retour à la vie civile. Mm-hmm. À savoir, surtout par rapport aux gueules cassées, hein, c'est tous ces soldats qui ont été défigurés par les shrapnels allemands, c'est-à-dire des espèces de billes de plomb qui tombaient et qui fêlaient les têtes.
Mm-hmm.
Et donc, il est obligé dans le film, celui qui a été atteint par ça, d'ailleurs, je crois qu'il ne peut plus parler, il me semble.
Ah, mais il a la gueule complètement arrachée, on le voit jamais, il est derrière un masque, il a plus de mâchoire.
Voilà.
De toute façon.
Donc, ça, c'était, imaginez refaire votre vie après, c'est un peu compliqué. Hein. Alors, on a commencé à développer la chirurgie réparatrice.
Ouais, ouais.
C'était le début, à cause de ça. Donc, il y a ça qui est important. Et aussi, c'est un enjeu qui est très important à l'époque, c'est les monuments aux morts.
Oui, tout à fait. Donc, ça a aussi un fondement. L'escroquerie que vont monter les deux héros.
Bien sûr.
Dont l'un est joué par Albert Dupontel. Ça y est, j'ai retrouvé. C'est Albert Dupontel qui a adapté au cinéma ce roman et qui en a fait un film vraiment extraordinaire. Et c'est le thème principal. Je voulais quand même citer un roman qui est sans doute le plus grand roman du XXe siècle français, qui est Le Voyage au bout de la nuit, et qui, dans sa première partie, fait une description. Je pense que là, on est au sommet de la littérature, pour ce qui est déjà dans l'absolu, et pour ce qui est de la description de la guerre. Les pages, il faut absolument les lire. De toute façon, les pages de Voyage au bout de la nuit sur la guerre, c'est traumatisant. La lecture seule est déjà traumatisante. Alors, on va peut-être passer à la dernière partie maintenant et s'interroger sur les conséquences.
Ah oui, les nombreuses conséquences
de la guerre.
Ah oui, il y en a énormément. Guerre. Et d'ailleurs, ces conséquences qui seront aussi des causes de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, bien sûr.
Alors, on peut citer, par exemple, déjà, j'ai dit tout à l'heure, c'est la fin, l'écroulement de la Russie tsariste en 1917 et l'arrivée progressive des bolcheviks qui vont créer, après une guerre civile, parce qu'il y aura encore une guerre civile, donc les Russes, ils vont devoir supporter la guerre mondiale et la guerre civile.
Ouais.
Ça va être un petit peu lourd, quand même. Donc, avec la création du RSS au début des années 20, donc premier régime marxiste de l'histoire.
Tout à fait.
En 1917, la Russie est au bord de l'implosion. Et que proposent les bolcheviks? La fin de la guerre.
Ouais, ouais, ouais.
Donc l'armistice est signé, et ça arrange bien les Allemands, l'armistice est signé début 1918 à Brest-Litovsk. Et comme ça, ça permet aux Allemands de décaler leurs troupes entièrement du côté de l'Ouest. Mais le seul problème, c'est que du côté de l'Ouest, il y a l'arrivée des Américains, il y a les Anglais, il y a les Français, il y a les Italiens. Ça fait quand même beaucoup.
On commence à avoir du monde sur le dos.
Voilà, donc... Donc on sait comment
ça se termine.
Les
Américains arrivent à partir de quand, 1917?
Ah, le temps qu'ils arrivent, plutôt début 18.
Début 18, très tardivement.
Ouais.
Donc on peut pas dire que ce soit... Est-ce qu'on peut dire que c'est eux quand même qui ont fini de mettre à genoux l'Allemagne?
Ils ont participé, mais ceux qui ont fait la guerre, c'est les Anglais, les Français et les Belges.
D'accord.
Faut pas oublier les Belges, mais c'était très peu nombreux, mais c'est essentiellement la France et l'Angleterre qui font la guerre.
Vu le déséquilibre des forces quand même, les Allemands étaient très supérieurs... on peut se demander pourquoi n'ont-ils pas gagné. Alors, il y a l'alliance France-Angleterre, ça commence à faire du monde, avec les Belges également, avec une occupation sur l'autre front pendant longtemps.
Oui, puis le problème, c'est que l'Autriche-Hongrie, on n'en a pas parlé, mais l'Autriche-Hongrie a des problèmes avec l'Italie au sud.
Oui.
Et les Allemands vont être obligés de les aider.
Donc, d'accord, ok. Donc ils vont
c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Et puis l'Allemagne commence à être complètement étouffée par le blocus. les Allemands, en 1918, meurent de faim.
Ah oui, d'accord, ok.
Et donc, ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Eh bien, les armées craquent et se rendent en masse.
Ah oui, d'accord, ok.
Et quand vous cumulez les chars, les Américains, les Anglais, les Français contre un seul pays, oui, ça commence à faire beaucoup.
Même si on est Allemand.
Mais c'est vrai que les Américains, déjà, il faut le temps qu'ils transforment leur économie en économie de guerre, n'ont pas eu ils ont eu un rôle beaucoup plus important dans la Seconde Guerre.
Ouais, d'accord. Voilà. On revient aux conséquences?
Autre conséquence, c'est le traité de Versailles.
Hein. Bien sûr, le calamiteux traité de Versailles.
J'avais commencé par, souvenez-vous, le 28 juin 1914. Mm. C'est le début, c'est ce qui déclenche tout, c'est l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Qu'est-ce qu'on va faire pour humilier et punir l'Allemagne qui, elle est déclarée responsable de la guerre?
Oui, oui. Donc, malheureusement
vaincu. Il faut la mettre à genoux. Mm. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va des réparations.
Et on demande des réparations, mais monstrueuses, ben, d'un montant complètement insensé.
Alors que l'Allemagne est déjà ruinée.
Et oui, tout ça, un pays complètement en ruine, en fait.
Donc il y a ça. En plus, on leur interdit une armée moderne.
Oui, bien sûr.
Et s'ils ne payent pas, on les occupe. C'est ce que va faire la France.
En quelle année dans les...
1923.
D'accord, oui.
Donc on a occupé...
Humiliation.
Évidemment, tout ça, c'est dans le traité de Versailles. Ouais, et comme par hasard, c'est fait volontairement. Exactement 5 ans pile après le déclenchement de la guerre.
Alors pour info, quelques voix se sont exprimées pour dire que ce traité de Versailles était une catastrophe, dont John Maynard Keynes, d'accord, oui, qui allait devenir un économiste légendaire, qui à l'époque est beaucoup moins connu, et qui écrit un bouquin sur le traité de Versailles en disant « c'est une folie ». Et il avait malheureusement raison.
Alors, on peut évidemment en citer d'autres, hein, de conséquences. Hein. Donc, les très mauvais traités de paix, l'arrivée des régimes totalitaires, par exemple Mussolini. Mussolini, avant la guerre, il fait la guerre, hein, Mussolini, donc en Italie. Hein. Donc, il fait la guerre en 1915, d'accord, sur 1918. Avant la guerre, c'était un socialiste,
oui,
pacifiste.
Oui, oui. L'invention du fascisme italien part du socialisme, oui, c'est vrai.
Alors, qu'est-ce qui se passe en Italie et en Allemagne après la guerre? Il y a vraiment un climat de révolution.
Ouais.
Et on a peur que ça tombe comme en Russie.
Donc, que vont faire les
élites italiennes et allemandes? Elles vont immédiatement se protéger derrière des hommes qu'on appellerait maintenant d'extrême droite.
Oui, oui.
Donc Mussolini,
et qui propose une sorte de révolution à leur sauce, mais une révolution qui ne gêne pas les puissants, en quelque sorte.
Exactement. Donc, après tout, pourquoi pas? Donc, on se dit, on y va. Mussolini marche sur Rome en 1922. Il va rester au pouvoir jusqu'en 1944. Après, il va y avoir une petite période où il va être mis à l'écart. Hitler va revenir le chercher. Mmh. Il va créer à la fin ce qu'on appelle la République de Salo. Alors, Salo, c'est écrit S-A-L-O. Hein. C'est une ville qui est située à côté de Milan, je crois. Et qui va mettre au point un pouvoir totalement fascisant, mais diabolique.
Totalement.
Soutenu par les nazis, il finira mal, par contre. Hein. Mmh, donc, autre conséquence, c'est l'arrivée des régimes totalitaires. Le fascisme, 1922.
Et d'une manière générale, une immense remise en cause des régimes parlementaires démocratiques.
Tout à fait.
Voilà, des attaques très violentes de la gauche comme de la droite.
Tout à fait. Et on le retrouve jusque la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre, c'est 20 ans après.
Ouais.
C'est rien du tout. Hein.
D'accord.
Sans parler, je ne parlerai même pas du Japon, parce que le Japon entre en guerre dès 1931 contre la Chine.
Ouais, d'accord. Au niveau de... Tu voulais parler un petit peu au niveau de la Terre, en quelque sorte, des conséquences?
Oui, alors quelques chiffres aussi. J'ai vu ça dans un reportage sur des personnes, en fait, qui habitent le long du front, enfin de l'ancien front. Des agriculteurs, notamment, ils retrouvent tous les jours, une trace de la guerre de 14-18. Mmh. Ça peut être des obus, éclatés ou pas éclatés.
Ouais.
Alors, s'ils ne sont pas éclatés, ils sont extrêmement dangereux.
Donc, ouais.
Il faut faire appel à la gendarmerie, les spécialistes. On estime qu'il y a environ 100 millions d'obus, grenades et munitions en tout genre qui sont toujours sur le territoire français.
D'accord.
Voilà, donc ça, c'est la Terre a énormément souffert. Et vous avez encore des zones qui sont des zones interdites parce que vous avez une grande quantité d'arsenic ou d'hypérite.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Alors une dernière chose, avant de conclure, on pourrait dire aussi dans les conséquences, je reviens au contexte intellectuel franco-français, on pourrait dire. Après la guerre, il y a une montée en puissance, mais ce qui se comprend, du pacifisme, d'accord, du plus jamais ça. Et quelque part, ça se comprend, vu la folie de la guerre et la folie de nationaliste qui a présidé à cette guerre. Mais en même temps, ça va creuser aussi la tombe de la génération suivante qui ne va pas voir en face, de façon assez lucide, le péril de Hitler et le péril des nazis.
Absolument. On va laisser
faire. Il va y avoir des résistances à gauche comme à droite face à l'idée de la guerre. Et Hitler aurait pu être arrêté avant, hein, d'accord ? Il aurait pu être arrêté vers 1936 parce qu'il n'était pas encore militairement assez puissant, mais ses forces pacifistes ont empêché toute réaction et ont conduit à la Deuxième Guerre mondiale.
Et ont conduit surtout aux accords de Munich qui étaient une horreur. Bon.
Très bien, bah écoute, on a un petit peu fait le tour, hein, de ce numéro spécial qu'on voulait faire sur la Première Guerre mondiale. Est-ce que tu veux dire quelque chose en conclusion ?
Oui, je pense qu'il y a un poids considérable des morts sur les vivants dans la société française et qui a duré des décennies. Voilà.
D'accord, très bien.
Bien, bonne soirée à tout le monde, au mois prochain et portez-vous bien.
Merci, au revoir.
Au revoir. Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouillou dans le rôle de Patrick Trouillou.
Et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.